France Culture.
C'est un mytho, un escroc, hein, quand même, c'est un phénomène.
Le Pic-Assiette, une série d'Alain Lefkovitch et Sonia Kronlund.
Le loi faisait l'événement, il était devenu le must.
C'est une histoire qui prête à rire, hein. Sauf qu'il peut mettre les gens par terre, quoi.
Épisode 1, au service de Sa Majesté.
J'ai fait un stage de survie en Malaisie. Je fais la guerre Irak 1, Irak 2. J'ai fait le Kosovo, la Bosnie-Herzégovine, le Timor oriental. J'ai fait l'Afrique. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses. Je suis allé à plein d'endroits. J'étais en poste 3 ans à Amman. Quelques temps aussi à New York. Bon, c'est autre chose.
L'homme que vous venez d'entendre est un menteur et il est précisément en train de mentir. Il n'est allé dans aucun de ces pays et n'a probablement jamais quitté l'Europe. On ne lui connaît aucun travail. C'est un menteur, mais ça n'est pas encore un escroc. Pour l'instant, il envoie seulement des messages sur WhatsApp à une femme dont cet épisode raconte l'histoire.
Je m'appelle Alice, j'ai 57 ans, je vis en Bretagne. Début avril 2021. Je viens de me séparer de quelqu'un avec qui, une relation qui a duré 1 an, mais qui était très toxique et très passionnelle. Donc j'ai besoin de me changer les idées. Je rencontre un homme sur un site de rencontre début avril 2021. Et très vite, il me déroule sa vie en même pas une demi-heure et il me propose de passer sur WhatsApp. Donc on commence à échanger réellement sur WhatsApp, plus sérieusement, où il me donne tout son identité, Andrew Alan Itzhak Fraser of Lovat. Discrètement, je regarde sur Google, mais je vois rien, je vois pas de photo par rapport à ce nom. Il me dit qu'il est retraité de l'armée britannique, qu'il était officier, qu'il vit à Rennes. Son texte de présentation sur le site de rencontre est bien écrit, c'est ce qui me plaît, par contre, les photos moyens. Mais bon, on peut pas juger les gens qu'aux photos.
Alice, ça n'est pas son vrai prénom. Elle l'a modifié parce qu'elle souhaite rester anonyme. L'homme qu'elle rencontre ce jour-là ne s'appelle pas non plus Andrew Alan Itzhak Fraser of Lovat. Mais il cache son identité pour des raisons tout à fait différentes, bien plus complexes, voire insondables. C'est un des menteurs les plus obstinés et prolixes de l'histoire contemporaine. Une sorte de chef des mythos, un syndicat à lui tout seul. Depuis 40 ans, il invente des scénarios complets, berne des villes entières et bâtit des mensonges de plus en plus rocambolesques. Pourquoi ment-il? Que cherche-t-il à obtenir? Et que révèlent ses mensonges? Voici son histoire, qui pourrait aussi s'intituler « Splendeur et misère » d'Andrew Alan Itzhak Fraser of Lovat.
Ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il me dit qu'il est bénévole dans une association où il donne des cours de français, de maths, d'anglais, d'allemand, d'histoire géo à des migrants et notamment à des Albanais. Et comme je fais du bénévolat en prison depuis 9 ans, du coup, ça me parle. Et tout d'un coup, il m'envoie toute une rafale de photos de lui, des photos de sa demeure, une grande demeure en Écosse. Mais... Il m'inonde tellement de messages écrits que j'en peux plus. Et puis finalement, je réponds. Je ne sais pas pourquoi, je réponds. Et là, à 1h du matin, j'y suis encore. Je trouve ça rigolo, à vrai dire. Que ce soit une relation amoureuse ou une relation amicale, ce que j'aime bien, c'est son côté où on se dit qu'on ne va pas s'ennuyer avec lui. Comme j'ai un petit problème où je m'ennuie rapidement avec les gens, surtout dans les relations amoureuses, ce côté-là me séduit. Il me parle de ses 4 mariages, dont la dernière qui s'appelle Sylvie. Et au milieu, la deuxième, c'était Julia qui est morte, la mère de sa fille. Je cherche pas trop à comprendre. Hein. Lui, il parle français parfaitement. Hein. Mais de temps en temps, il me laisse des messages en anglais que je comprends quand même avec un bon accent. Hein. Je doute pas du tout qu'il puisse pas être écossais. Hein. Pas du tout. Hein.
Alice a conservé la plupart des messages.
In fact, it's not my concern at all, you know. this is that old, you know, and I don't, it's not very interesting, you know, for me. You know what I mean? Administratives, you know, papers, you know.
Le lendemain, je travaille tôt ce matin-là, quand je rentre de mon travail vers 13-14 heures, je vois qu'il m'a laissé un message où il me dit que le prince Philippe est mort et qu'il est d'obsèques. Je lui dis pourquoi ? Ben parce que, de par mon rang, je me dois d'y être. Comme il est retraité de l'armée britannique, qu'il était général, il a servi la couronne, ok, je comprends qu'il doive aller aux obsèques. Et très vite, il me demande si je peux l'accompagner.
Soit j'y vais tout seul, et dans ce cas, on va jaser, ça va pas me plaire. Soit j'essaie de pas y aller, soit j'y vais avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Mais pour l'instant, j'ai proposé à plusieurs personnes qui ont toutes refusé. Il faut quelqu'un de confiance, quelqu'un qui est de la classe, etc., etc.
Le soir, je lui dis, bon, bah, d'accord, alors je vais venir. Et je me dis, je vais emprunter un sac à main à une copine qui aime bien les trucs un peu chics. Il est tout content, parce qu'en fait, il ne veut pas y aller seul, ça ne se fait pas d'être seul. Et après, il m'envoie des messages vocaux pour me dire, bon, alors voilà, ça va s'organiser comme ça, j'attends d'avoir un coup de téléphone de quelqu'un, là, je vous explique tout à l'heure, bon. Dès le lendemain, il me met en contact avec son aide de camp qui s'appelle John Townsend, et accessoirement son beau-frère, puisque c'était le frère de Julia, donc de la mère de sa fille. Ils se sont connus à l'école militaire en Écosse ou au Royaume-Uni, je ne sais plus trop où. Ils se connaissent depuis qu'ils ont 20 ans, ils ont fait toutes les guerres ensemble. Bon. Et ils créent un groupe à trois sur WhatsApp. Donc toute la journée, là, j'en ai pas assez avec Andrew, en plus les messages de John et les messages du groupe. Et là, il me parle de Angus et Duncan, qui sont des jumeaux, mais aussi qui sont ses cousins et qui font partie de la sécurité, de la garde rapprochée, si on peut dire, d'Andrew. Très vite, je reçois un mail officiel signé Ministry of Defense de John. Il me dit qu'on va partir le vendredi et qu'il faut que je lui envoie la photocopie de mon passeport pour le laisser passer à Villacoublay.
Dans l'entourage d'Andrew se mélangent des personnages fictifs comme les deux jumeaux, Angus et Duncan, l'officier de sécurité ou John Townsend, l'aide de camp. Mais il y a aussi quatre Albanais qui, eux, semblent exister vraiment. Andrew prétend les avoir rencontrés dans un foyer pour sans-abri, où il passe du temps, dit-il, pour écrire un livre sur les marginaux.
Je pars rejoindre mes Albanais et je vous salue. All the best. Have a very nice time, lunch, and as you like.
La journée passe. Je dis à Andrew, mais vous écrivez pas pour John ? C'est pas possible, il a à peine lu qui répond. Il me dit, mais qu'est-ce que vous allez chercher Alors, il m'avait dit la veille que mon nom de code, ce serait Lynx. Et que lui, son nom de code, depuis toujours, c'est Pollux, en tant que militaire. Donc, dans le groupe, il dit à John, peux-tu dire à Lynx que non, je n'ai pas le temps d'écrire tes messages. Comme il lit en même temps dans le groupe, et ben, il répond aussitôt. Bon, d'accord.
Alice a donc emprunté un sac et trouvé une tenue spéciale funérailles royales. Andrew, lui, doit se rendre à l'hôpital militaire de Percy pour des examens médicaux. Et tous sont censés se rejoindre le lendemain pour partir à Londres.
L'avion, c'est un avion privé qui doit arriver avec les jumeaux à Rennes. Et après, ils doivent atterrir à Villacoublay, aller dormir au Lutetia. Et le lendemain, lui, il a ses rendez-vous médicaux à Percy. Et dans la journée, il est complètement excité, là, à préparer son départ du soir. Bon. Le lendemain matin, je me réveille vers 8 heures. Pas de message d'Andrew. Je trouve ça bizarre parce que depuis le 4, tous les matins, il m'envoie des messages à 5 heures du matin quand il se lève pour prendre son thé. J'appelle, ça sonne occupé. Là, je me dis, je me suis fait avoir. Parce qu'une demi-heure où ça sonnait occupé, hein, et pas de nouvelles, ni de John, ni d'Andrew. Mais comme j'aime pas me faire avoir quand même, trop, j'essaye de comprendre quand même. Et là, j'envoie un message à John, ah ben c'est bizarre, est-ce que vous êtes bien arrivé? Et peut-être qu'Andrew a commencé ses rendez-vous médicaux. Et là, il me dit, il était tellement stressé parce qu'on est arrivé en retard, Andrew, que du coup il a eu un malaise en arrivant à Paris et il a été transféré directement à l'hôpital Percy. Il n'est pas allé à l'hôtel Lutetia. Et là, il est inconscient. Comme il m'a dit qu'il avait déjà eu plein de malaises, plein d'infarctus, moi ça m'inquiète pas trop. Hein. Je lui dis, bon, bah, on pourra quand même manger ce midi ensemble ou pas? Enfin, je lui écris, hein, parce que John, il répond jamais au téléphone. Hein. La situation médicale d'Andrew s'aggrave, donc John me dit qu'il va me tenir au courant, mais qu'évidemment, il n'ira pas à Londres pour les obsèques. Le voyage est annulé. Le soir, pas de nouvelles. Et moi, je cogite quand même dans ma tête. Hein. Je me dis, mais comment on peut passer autant de temps à écrire des trucs comme ça si c'est faux? On peut mentir à des gens, mais pas sur 3 heures, 4 heures, 5 heures. Moi, je vais pas dire que j'ai jamais menti dans ma vie, mais pas au point d'élaborer comme ça des dialogues pas possibles, quoi. Bon, c'est surtout que je vois pas l'intérêt. Pourquoi me proposer d'aller aux obsèques? Qu'est-ce qu'il en tire, lui, comme bénéfice? Le lendemain, comme j'ai un petit côté un peu sanguin, là, la moutarde me monte au nez. Et là, je me dis non, c'est pas possible. Parce que John me répondait, là, il est tombé dans le coma, je sais pas quoi. Et là, je lui envoie un WhatsApp écrit à John en lui disant, bon, écoutez, votre Andrew, c'est un mythomane. C'est une maladie psychiatrique qui se soigne. Il faut qu'il aille consulter le cher ami de Sa Majesté, là. Hein. Ironiquement, évidemment, je mets ça avec des smileys ou je sais pas quoi, bon. Une heure après, John me répond un message en anglais hyper carré, en gros, qui voulait dire qu'en insultant Andrew, j'avais insulté la couronne britannique et l'armée, et que j'allais devoir rendre des comptes, et qu'il était obligé de faire un rapport. Et là, moi, je prends peur. Je prends peur parce qu'ils ont mon adresse, vu que je lui avais donné la photocopie de mon passeport pour avoir un laissez-passer pour Villacoublay. Et je me dis, mais ça se trouve, c'est des voyous qui vont venir du coup voler chez moi ou je sais pas quoi faire, quoi. J'habite dans un parc où il y a des maisons, mais c'est un peu isolé dans le parc. Je me dis, bon, je vais chez les flics. Et là, on me prend pour une idiote. Le premier qui me reçoit, je lui explique. Je dis, voilà, j'ai rencontré quelqu'un il y a une semaine sur Internet. Je me demande quand même si je me suis pas fait avoir. Le problème, c'est qu'il a mon adresse. Et je lui explique qu'Andrew m'avait expliqué qu'en le fréquentant, de par son rang, j'étais forcément sur écoute. Parce que tous les gens qui le côtoyaient étaient sur écoute. Et le flic me dit, mais attendez, c'est impossible que vous soyez sur écoute. Bon, je dis, mais écoutez, prenez les deux numéros et faites une recherche. Vous allez bien voir. Non, mais non, vous inquiétez pas, vous risquez rien et tout. Donc je suis rentrée chez moi, bredouille. Du coup, j'envoie un message d'excuse à John en mettant, bon, je suis désolée, ma cousine s'est fait avoir il y a peu de temps sur Internet et je suis un peu parano, j'ai pensé que c'était des conneries, quoi. Et il me répond, hyper froid, j'en prends note. Et le lendemain, il revient à la charge. Et je lui dis que bon, ça m'a quand même fait plaisir que Andrew me fasse confiance pour aller aux obsèques. Je pourrais lui foutre la honte aux obsèques. Il sait pas qui je suis, mais bon. Non, mais je sais que vous avez de la classe. Non, n'importe quoi. Bon. John me dit, si vous voulez fréquenter Andrew, vous allez voir, la reine l'appelle le joyau de la couronne. Alors, je vais vous confier un secret. C'est l'une des 10 personnes les plus importantes du Royaume-Uni. Il a dû vous le dire, mais il a un poste très important au MI6. Alors, il m'avait vaguement parlé de services secrets, sans préciser MI6, Andrew. Voilà, que j'allais être impressionnée par sa prestance, que tout le monde était en admiration devant lui, et que si grâce à moi il est heureux, John, je serai sa meilleure amie, et que s'ils s'aperçoivent, lui ou les jumeaux ou n'importe qui de la sécurité, que je trahis, alors là, ça allait être terminé pour moi et j'allais morfler. Faut pas que je sois une menace pour la sécurité. N'importe quoi, enfin bon.
Quelques jours plus tard, John informe Alice qu'Andrew s'est enfin réveillé de son coma. Elle fait alors le pari de le croire, ou du moins d'en juger par elle-même.
Je me dis non, il y a un truc à comprendre. Faut pas lâcher, quoi. Je sais pas expliquer pourquoi, hein. Mais pour que je comprenne, il faut déjà que je le voie. Donc je veux aller le voir à l'hôpital. Sauf que John n'arrête pas de me dire « Mais vous allez le surcontaminer, on n'arrête pas de vous dire que les visites sont interdites, vous allez créer des incidents diplomatiques. En plus, l'ambassadeur a eu vent de votre existence, il vous déteste. » Je dis « Il me sort ça d'où, lui, qui me déteste, il ne me connaît même pas. » Oui, il n'a pas compris qu'Andrew veuille vous faire venir aux obsèques, quelqu'un de son rang quand même. Je dis « Mais il sait qu'il n'y a pas de saut métier, on lui l'a déjà appris ça. » J'étais super énervée. Je dis « Mais attendez, moi, si je le croise, il va voir, hein, tout ambassadeur qu'il est celui-là. » J'étais furieuse. Bon, le 19 mai, John, en fait, me dit que le médecin les a informés que l'opération n'aura pas lieu le mardi qui suit, donc le 20. Andrew enchaîne en me disant « Oui, moi, je vais pas tenir encore 15 jours à attendre. Demain, c'est décidé, je fugue. » Donc, il va venir chez moi, du coup, les 15 jours, en attendant de retourner à l'hôpital. Bon, bah tant mieux, depuis le temps que je veux le voir. Hein. Puis je me dis 15 jours, c'est rien. Au pire, voilà, on va rigoler 5 minutes, et puis voilà, c'est pas grave. Donc, alors, il faut aller lui acheter du papier toilette, je sais pas quoi, en lingette, du thé de chez Lidl, hein, ça coûte pas cher, c'est pas très grave, des sucrètes et des œufs et du piment d'Espelette, je sais pas quoi. Bon, il me fait une petite liste de courses, quand même, hein. Bon, je me dis, allez, depuis plus d'un mois et demi qu'il est à l'hôpital, bon, ça va. Mais alors, un truc que je trouve bizarre, c'est qu'il ne veut absolument pas que j'aille le chercher devant l'hôpital. Je dis, mais pourquoi? Alors, non, on va s'attendre à 20h à Montrouge devant Darty. Je dis, mais je vais vous attendre devant l'hôpital. Quoique là, maintenant, je le tutoie, là, j'ai imposé le tutoiement. Donc, non, il faut surtout pas venir devant l'hôpital. S'il me voit, je vais avoir des problèmes. Bah oui, en fuguant, ça, c'est sûr qu'on a des problèmes en général, mais bon. C'est un samedi. J'arrive à 20h à Montrouge, devant Darty. Je vois arriver, ben je le reconnais physiquement, hein, un espèce de truc, là, chargé comme un mulet, un sac à dos énorme, style pour un trek, hein, un gros sac à dos bleu là, dans le dos, deux grands sacs de voyage sur chaque épaule, et les sacs de course, là, style Carrefour, je sais pas quoi, Lidl, machin, là, remplis à ras-bord. Hein. Bon, je crois que là, un grand moment de solitude comme j'ai rarement eu dans ma vie. Oh, je me dis, qu'est-ce que je fais, quoi? Quelle horreur! Oh, mon Dieu! Déjà, il ne me plaît pas du tout physiquement. Et c'est surtout la dégaine, quoi. Quand vous êtes chargé comme ça, vous arrivez... On ne sait pas qui porte qui, courbé, là. Oh, je me dis, c'est pas possible, je fais demi-tour. Et là, tout de suite, je me dis, mais je ne peux pas faire demi-tour, ils ont mon adresse, et ça se trouve, John et les jumeaux sont dans les parages. Je vais avoir de sacrés problèmes. En fait, j'ai un peu peur, quand même. Donc, bah, je le laisse arriver jusqu'à la voiture, je me lève même pas hein, pour l'aider. Tellement que j'étais dépitée, j'étais là, oh, je me reverrai toujours au volant à me dire, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible.
Et pourtant, sa rencontre avec Andrew Alan Isaac Fraser of Lovat, agent écossais au service de Sa Majesté Elisabeth, s'avère plus agréable que prévu.
Le premier échange, facile, hein, parce que lui, il parle avec n'importe qui. Donc, tout de suite, on a rigolé. Comme les restaurants sont fermés, je passe commande par téléphone et sur le chemin, on s'arrête. Il commande pour 4, hein. Je me dis, bon, il n'a pas mangé à sa faim ou bien pendant un mois et demi. Bon, voilà. Alors, quand même, je paye, hein, parce que c'est John qui a son portefeuille. John doit lui rendre son portefeuille incessamment sous peu. Donc, on arrive chez moi. Il allume la télé. J'ai horreur de ça. La télé toute la soirée. Il mange comme un ogre. Hein. Il parle comme il écrit, quoi, beaucoup. Mais c'est drôle. Je ne veux pas dire que c'est désagréable. Il y a un côté drôle. La façon dont il s'exprime. La façon dont il raconte sa vie, enfin des anecdotes, il a beaucoup d'humour. Il limite bien les accents, voilà. Je suis assez contente de le voir. Bon, il est agréable. Je me dis, bon, physiquement, pas une question de poids, hein, mais il me plaît pas, quoi. Bon, on s'embrasse un peu, tard, hein. Pas l'alcool aidant, hein, on n'avait pas bu. Bon, déjà, je me dis, oh là là, ça va pas le faire. Parce que dans tous ses écrits, il s'était présenté comme quelqu'un de très sensuel et très sexuel. Ah ben non. Ou alors on n'a pas la même définition des choses, mais moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Hein. Bon, c'est pas que c'est un bourrin, c'est pas ça, mais on dirait qu'il sait pas y faire. On dirait qu'il a besoin d'un mode d'emploi, quoi. comme chez le garagiste, quoi, pour... Bon, là, je prends le boulon, là, je prends le... Non, le mec empoté, quoi. Ça allait pas du tout. C'est pas grave, il allait retourner à l'hôpital dans 15 jours. Hein. Puis moi, je prépare déjà mon plan dans ma tête. Je lui avais parlé de mon ex, hein, avec qui je venais de passer un an, que ça avait été difficile et tout. Je me suis dit, bon, je vais lui dire que je suis retournée avec. La nuit se passe. Bon, alors, il a un côté très nounours, comme un gros oreiller, donc ça, c'est sympa. Par contre, ce qui est moins sympa, c'est qu'il regarde la télé. Donc, pour dormir, c'est pas très cool. Je m'endors tant bien que mal à 3... Et qu'est-ce que j'entends à 3 heures du matin? Il était en train de manger. Oh, un sandwich. Jamais j'avais vu ça de ma vie. Quelqu'un qui se réveille la nuit pour manger. Sauf s'il faut se lever après, et bon, ça m'a choquée. Hein. Je dis, quoi? T'es en train de manger un sandwich? Mais John, il a dit qu'il fallait que tu maigrisses pour ton opération du cœur. Bah alors si tu manges des sandwichs la nuit... On va à Leclerc. Je déteste les grandes surfaces. La bouffe qui dégueule de partout, là, je trouve ça mais horrible. Donc, le caddie... rempli à ras-bord, du champagne, des bouteilles de vin, des gambas, des pâtes, du riz, du café, du thé, mais comme s'il y avait la guerre, quoi. Et qui c'est qui paye, c'est moi, hein. Sauf que j'avais quand même commencé, là, il a beau être général de l'armée britannique, j'avais quand même commencé, les jours passés, un peu à lui dire qu'il allait quand même falloir qu'on partage les frais, quoi. Là, il est sorti le 22, on est fin mai, et c'est moi qui paye tout. L'essence, les restos... la bouffe, bon, à un moment donné, mon compte n'est pas extensible. Alors, lui, il s'installe comme un prince hein, chez lui. Il parle tout le temps. On en arrive de 7 heures de voiture, il jacasse encore. Enfin bon, il y a un côté pas désagréable dans la vie à deux. Comme ça, c'est pas une relation amoureuse, parce que de toute façon, au niveau sexuel, c'est pas possible. Mais c'est pas non plus qu'une histoire amicale. C'est entre les deux. C'est comme un vieux couple. On dort dans le même lit, c'est mon oreiller. Mais on rigole bien. Par contre, il fait à manger pour 10 et je commençais à sérieusement prendre du poids. Hein. Comme lui, quoi. Il voulait qu'on soit à son image. Les jours avancent. Moi, là, je commence à être focalisée sur le fait qu'il faut que je récupère mon argent. On dirait que ça fait 6 mois, mais on n'est que vers le 10 juin, là, un truc comme ça. Donc, je sors tous les tickets. Il m'a regardé comme si j'étais la dernière des pauvres filles, quoi. Donc, je divise tout par deux. Je dis, ben voilà, toi, tu me dois ça. Et encore, je suis généreuse parce que je ne te fais pas payer tel resto, tel resto, tel resto. Je lui dis, tu me dois 4000 euros. Et alors, il me dit, John va te faire un virement de 9 999 euros par mois. Alors, j'envoie le RIB à John. Je dis, mais 3 4000 euros, c'est bon, hein, pas 9000. Non, non, mais je vous ai dit, hein, Andrew, c'est un gentleman. Hein. Il m'a demandé 9 999, vous aurez tous les mois. Je me dis, on verra bien. Hein.
Votre entourage, vos copains, copines, ils disent quoi?
Alors en fait, comme il m'a dit que j'étais sur écoute, je ne raconte rien de ma vie à personne. Et il a réussi à m'écarter de tout le monde. Puisque moi, j'ai l'habitude de raconter ma vie, bon, les gens me connaissent. Je vois pas comment à des amis, tout d'un coup, je peux plus rien dire. Donc du coup, bah, je m'isole de tout le monde. Mon boulot, j'en raconte le minimum, que j'ai rencontré récemment un militaire à la retraite. Je suis devenue tellement parano que même si mon téléphone est à 10 mètres, je me dis quand même qu'on ne sait jamais, je suis sur écoute. Et forcément, bah, je vois plus personne. Mais il prend tellement de place que les gens ne manquent pas, à vrai dire. Je n'ai toujours pas reçu mes virements. Mais par contre, comme par miracle, courant juin, là, je ne sais plus quelle date, il reçoit des colis Vinted, de fringues et de pompes. Et en fait, il me dit, ben oui, John m'a rendu mon portefeuille. Je lui dis, quand? Ah ben, l'autre jour, t'étais pas là. Je lui dis, ah ouais. Alors comme ça, depuis le temps qu'on doit se voir, là, tu le vois et tu ne me le présentes pas. Non mais, alors là encore, j'étais encore plus énervée, quoi. Un beau jour, il me dit qu'avec John, ils ont décidé de me faire rentrer au MI6. Parce que comme j'adore les enquêtes, plutôt que de leur casser les pieds tout le temps à leur poser 50 000 questions non-stop, là, j'allais pouvoir faire quelque chose de concret. Je lui réponds, ah bah c'est hors de question. J'en ai pas du tout envie. Il me dit, ah bon, bah depuis le temps que tu me dis que tu aurais voulu être enquêtrice, on t'offre là le moyen de rentrer par la petite porte et tu dis non. Je dis, bah ouais, parce que depuis que je te connais, j'ai compris que c'est un milieu pourri et j'ai plus du tout envie. C'est hors de question. Il tirait une tronche. Il était vexé comme je sais pas quoi parce que là...
il croyait me donner une carotte. Mais non, j'avais pas envie. Sauf que dans la nuit, moi, je repense à des films que j'ai vus, notamment Otage à NTB, Tu marcheras sur l'eau, et un autre de Atom et Goyan que j'ai adoré, Remember. Et je me dis, ah ouais, quand même, c'est un côté génial, le côté comme ça, chercher, planquer, là, et tout, bon, à essayer de comprendre. Bon, le lendemain matin, je lui dis, oh, j'ai changé d'avis. C'était pas tout à fait vrai, mais quelle serait ma première mission? Alors, il me dit, ben, vers le 15 septembre, tu devras aller dans un grand hôtel parisien. Il y a un homme et une femme qui auront un rendez-vous. Tu vas arriver en avance, tu vas surveiller à quelle heure ils arrivent. La femme va remettre une enveloppe à l'homme, donc tu surveilles tous leurs faits et gestes. Tu auras une oreillette au cas où, si tu te plantes. Et tu devras suivre après le mec. S'il part en voiture, tu auras un taxi, sinon tu le suis à pied. Et là, je lui dis, mais c'est qui le type? Il y a quoi dans l'enveloppe? Il me dit, mais tu veux quand même pas qu'on te raconte comment on fait notre cuisine? Bah si. Si, si, si. Et je lui dis, bah, dis-moi au moins qui est le type, sinon comment veux-tu que je le reconnaisse? Bon, et il me dit, mais t'auras l'oreillette. Puis finalement, il finit par me dire. Il me dit, bah, c'est Hervé Gattegno. Hervé Gattegno, je connais de nom, et puis en fait, il a un lien avec Paris Match. Moi, je savais que c'était quelqu'un de connu au niveau de la presse. J'avais déjà vu sa tête. Hein. Et il me dit que dans l'enveloppe, il y a des documents hyper confidentiels de l'époque Sarkozy-Kadhafi. Alors moi, ça me fait marrer. Et je lui dis, c'est pas que ça me fait marrer, je lui dis, mais il risque quoi, Hervé Gattegno? Il me dit, bah, la prison. Genre, évident, quoi. Bah, la prison. Je dis, ah ouais, parce que tu crois que je vais être le maillon d'une chaîne qui va mettre quelqu'un en prison, toi? Bah, je lui dis, bah non. C'est non, je veux pas. Alors là, terminé le truc. Bon, il était vraiment dégoûté parce qu'il pensait que j'allais les lâcher, arrêter de leur poser des questions à eux et me focaliser sur ce truc.
Rapidement, Andrew explique aussi à Alice qu'il a un cousin qui s'appelle Daniel et qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Il lui sert de doublure, le remplace quand il est malade ou absent. Quand elle apprend l'existence de cette doublure, Alice se demande tout d'un coup si les messages érotiques qu'elle a reçus d'Andrew pendant plus d'un mois n'ont pas été en réalité écrits par ce Daniel.
Fin août, je lui dis, mais attends, si c'est pas toi qui as écrit ces trucs de sexuel, à caractère sexuel, alors c'est Daniel. Puisque tu m'as dit que Daniel t'avait remplacé à Rennes. S'il peut te remplacer physiquement, il peut te remplacer dans ton téléphone, j'imagine. Donc t'étais à l'hôpital, et je ne sais par quel biais, il est rentré dans ta carte SIM, il m'a envoyé des messages. Je lui dis, bah, il s'est bien amusé, hein. Ça, pas de problème, hein. Moi, j'étais persuadée que c'était Daniel, du coup. Et là, il me dit, non, en fait, je crois que c'est encore pire que ça, c'est l'intelligence artificielle. Alors là, nouveau lièvre. Donc, Andrew, il m'explique que l'intelligence artificielle, qui est surnommée Isaac, a été mise en place grâce à l'ancien Premier ministre britannique Cameron. Cameron était tellement époustouflé par le QI d'Andrew et son intelligence et d'un autre mec, il s'est servi de leur cerveau pour faire une espèce d'intelligence artificielle. Bon, voilà ce que je comprends, parce que je n'y connais rien à ce sujet, rien de rien. Et donc, c'est cette intelligence artificielle qui m'aurait envoyé des messages sexuels pendant 2 mois, enfin au moins 1 mois, quoi. Mais je lui dis, mais attends, l'intelligence artificielle, elle va écrire « je vais te prendre en petite cuillère ». Non mais oh, il y a des limites à la limite, j'ai envie de vous. La phrase standard, quoi, qui peut être répétée n'importe quand, mais pas des trucs bien précis comme ça. Bon là, j'avais quand même de gros doutes. Hein. Et dans la nuit, je me dis, bah, non mais là, il va falloir qu'il dégage, quoi. C'est pas possible autrement. Bon, je vais pas revoir mes 5000 euros, mais tant pis. Mais là, il faut qu'il dégage, je peux plus le supporter. Alors je suis d'autant plus énervée que... Avant que je revienne à Paris, là, le fils d'un ami de mes parents, il s'appelle Pierrick. Pierrick m'a appelé. Il me dit, bon, ben voilà, en fait, Andrew, c'est pas Andrew. Il me dit, non, mais en fait, j'ai eu sa vraie identité. Il s'appelle Alain Jolois. Tape son nom sur Google. Donc, je tape. L'autre, il était devant moi, hein, à côté. Hein. Je tape Alain Jolois. Et là, oh, mon sang ne fait qu'un tour. Hein. Oh, mais non, mais limite, j'allais tomber dans les pommes, quoi. Vraiment, hein. J'avais peur. Je me suis dit, mais il est taré. En fait, c'est un malade. S'il me tue en pleine nuit. On ne sait pas comment les gens ils peuvent devenir. Bon.
C'est la première fois qu'Alice entend ce nom. Alain Jolois. Un nom qu'il cache sous des dizaines de légendes de papier. un nom qu'il refuse obstinément de porter, et c'est pourtant sa véritable identité, ce qu'Alice ignore encore. D'où vient-il? Comment fait-il pour se cacher? Où se trouve-t-il aujourd'hui? C'est ce que nous allons découvrir dans cette série, et comment Alice va faire pour échapper à ce menteur. C'était le Picassiette, épisode 1, au service de Sa Majesté, une série d'Alain Lefkovitch et Sonia Kronlund en partenariat avec Society. Reportage Alain Lefkovitch, réalisation Anne-Laure Chanel, mixage Grégory Wallon, conseil à la narration Adila Benedjaizou, musique Gilles Lavanant. Merci à Lucie Tétard, à Inès Bouffartig, Sébastien, à Valentin Rémy, l'attaché de production des Pieds sur Terre, et à Luce Mourant, notre stagiaire. Expressing your uncertainties through years of anniversaries, then 5 years down the line, you say she was never my type. Lovers are strangers, there's nothing to discuss. Hearts will be faithful while the truth is told to someone else. Lovers are strangers, there's nothing to discuss. Hearts will be faithful while the truth is told to someone else. When you look up, tell me who you really love. When you look up, tell me who you really love. Fall comes by surprise. Truth is told to someone else. When you look up, tell me.